Les priorités santé avec Suno Assurance, qui a le bon profil pour vous accompagner durant cette année d'excellence. Bonne année.
Priorité santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Certaines émotions sont les bienvenues, la joie bien sûr, mais aussi la sérénité, la confiance ou même un certain détachement propice à la rêverie. D'autres émotions sont franchement désagréables. La colère, l'effroi, la tristesse ou le dégoût. Mais comment réagir face à des émotions que l'on ne comprend pas? L'irruption dans notre esprit et parfois physiquement d'une oppression, d'un vertige, ce sentiment de perdre le contrôle. Cette détresse psychologique que nous allons explorer aujourd'hui, l'identifier car celles et ceux qui la subissent ne sont pas toujours capables de mettre un nom sur leurs tourments, sur ces troubles qui peuvent les déstabiliser profondément. Prendre conscience de l'utilité des différentes émotions, comprendre dans quelles circonstances les crises se déclenchent, reconnaître donc ces émotions en jeu face, par exemple, à une attaque de panique. Quel est le lien entre la détresse et la solitude? Comment la nécessité d'être consolé fait partie de nos besoins essentiels? S'arrêter sur cette angoisse qui peut nous couper dans notre élan et compromettre certains projets, expliquer les symptômes, comprendre les origines pour un soin adapté à l'état émotionnel de chacun et de chacune. La détresse psychique, une nouvelle approche du soin, c'est le titre du livre que vous avez signé aux éditions Odile Jacob. Docteur Antoine Lesure, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes psychiatre, spécialiste des troubles anxieux et de la dépression, et vous êtes aussi membre du Collège national de la qualité des soins psychiatriques. Nous irons en Guinée pour donner la parole au docteur Mariama Barry, psychiatre au CHU Donka de Conakry. Docteur Barry qui est aussi chargé de l'unité santé mentale au niveau du ministère guinéen de la santé. Le centenaire de l'Académie des sciences d'outre-mer. À cette occasion se tient demain un colloque qui va réunir des spécialistes de la santé et de l'économie tropicale, avec au nombre des préoccupations le développement de la recherche dans les pays du Sud. Et en fin d'émission, on va donner la parole au professeur Jean-Philippe Chipot, directeur de recherche émérite à l'Institut de recherche pour le développement. Il fait partie des conférenciers.
Priorité santé sur RFI.
Alors pour apporter des réponses pertinentes à des personnes confrontées à cette détresse psychique, bien sûr, essentielle dans un premier temps, docteur Lesure, et dans votre livre, vous l'expliquez, hein, cette détresse psychique, qu'est-ce que c'est? C'est une émotion. Très important de donner une définition, comprendre ce que chacun d'entre nous porte en lui. Est-ce que cette détresse, c'est quelque chose qu'il est d'abord facile de définir?
C'est en fait quelque chose que l'on vit presque au quotidien, mais qui en même temps n'a pas encore été définie. C'est un peu, je dirais, l'originalité quand même de mon livre, c'est de dire que la détresse est une émotion en soi. Et je pense qu'elle a eu une difficulté à être définie parce que quand on parle d'émotion, on pense souvent à la cause de l'émotion. Et la cause de la détresse psychique, en fait, c'est une situation d'absence. Et l'être humain a une difficulté à se représenter l'absence. Il va se représenter une soustraction, mais il ne va pas se représenter l'absence. On se présente d'abord la présence, et éventuellement l'absence, c'est un mouvement de retrait. Mais l'absence en tant que telle a un effet douloureux. Et ça renvoie aux théories de l'attachement qui ont été décrites dans les années 70 par un psychiatre, psychanalyste John Bowlby, qui a montré que finalement, dans les espèces sociales, le retrait de la mère induisait un état de détresse douloureux, désorganisant, qui avait quand même une particularité, et c'est la particularité de la détresse, c'est aussi pour ça qu'elle est dure à définir, c'est qu'elle est très associée à la peur, et on ressent, on va d'abord appeler la détresse la peur, et l'autre particularité de la détresse, c'est aussi d'induire un désir de rapprochement de l'autre.
Et c'est un peu ce qu'on voit, pour que les auditeurs cernent bien la question, tout simplement avec les bébés, ça permet de bien comprendre, le bébé il pleure parce qu'il a faim, mais parfois, une fois qu'il a mangé, il est rassasié, on le laisse seul, et là, on entend ces petits cris de détresse, que d'ailleurs, certaines mamans sont capables d'identifier, le cri de faim, le cri de la peur et de la solitude. On va dire que cette émotion, on peut l'avoir, quand on est adulte, bien sûr, on arrête de pleurer à un moment donné, docteur Lesure, on l'a chacun en nous, et puis, à un moment donné, ça va devenir insupportable. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait que ça va changer cette solitude qu'on affronte, qu'on supporte, c'est quelque chose avec laquelle on vit, Et puis, à un moment donné, on se retrouve, par exemple, je dis, dans la rue, et on sent la cage thoracique qui se contracte, on est mal, et on ne comprend pas ce qui est en train de se passer.
Alors là, vous décrivez l'attaque de panique assez typique, qu'on considère comme venant de nulle part, où il y a à la fois cette douleur, cette oppression et ce sentiment de perdre la maîtrise de soi-même. Et en fait, si on y réfléchit, souvent, cette attaque de panique, elle vient de quelque part. Et elle survient souvent dans un contexte où il y a un remaniement des liens sociaux, un remaniement du lien, et finalement, qui va induire des pertes de liens.
Ça veut dire, par exemple, on a quitté un emploi, on a quitté un ami, on a quitté la maison. Ouais, on a déménagé.
Par exemple, moi je prends toujours l'exemple, c'est pas toujours des événements négatifs, ça peut être effectivement un mariage. J'ai plusieurs patients qui ont présenté des attaques de panique juste avant un mariage, parce qu'au fond ça remaniait les liens et ça, pour eux, il y avait une symbolique de rupture de liens familiaux qui induisait cette détresse.
Et pour mettre justement ce concept de détresse qui fait partie des troubles anxieux, est-ce qu'on peut décrire, il y a cette fameuse image de l'attaque de panique avec cette crispation, cette douleur quasi physique d'ailleurs, qui pousse beaucoup de patients à aller consulter en cardio pour dire est-ce que c'est pas mon cœur qui est en train de lâcher, qu'est-ce qui se passe. Parmi les signes, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme ce qu'on va appeler les symptômes?
Je dirais qu'un des symptômes qui est peut-être un peu intellectualisé, mais c'est au fond ce sentiment de perdre la maîtrise. De perdre la maîtrise et un sentiment d'abandon. C'est les deux marques pour moi, qui sont fondamentales.
On ne comprend pas ce qui se passe.
Voilà, on ne comprend pas ce qui se passe. On est figé dans un... On peut aller jusqu'à avoir sentiment que le monde autour de soi se modifie. On peut avoir des illusions auditives, par exemple. Et on peut aussi avoir le sentiment de ne plus exister en tant que soi. Alors, c'est des notions qui sont difficiles à faire passer, mais ce que je me suis aperçu, c'est que quand les patients le vivent et qu'on leur donne ces mots-là, ils les prennent, ils se les approprient.
Ils comprennent, c'est une
ils
sorte
comprennent.
De... C'était ça.
Voilà. Alors,
vous avez dit tout à l'heure, il y a des moments de la vie qui sont particulièrement propices à ce type de déstabilisation. On parle beaucoup ces derniers mois, ces dernières semaines, et c'est certainement pas terminé, des adolescents en proie à des crises de panique. Dans notre entourage, quand on a des ados, ils me disent, au lycée, il y a une copine qui est tombée dans les escaliers, crise de panique, les pompiers sont venus. C'est quelque chose qu'on entend fréquemment. Est-ce que vous diriez qu'il y a aussi non seulement des circonstances dans la vie, mais aussi des périodes de la vie, de l'existence, qui sont plus propices que d'autres?
C'est-à-dire que la période de l'adolescence ou de l'adulte jeune est une période propice à la survenue de telle crise, puisque c'est une période où il y a un remaniement profond du lien social ou du lien affectif, et que les adolescents sont confrontés à un remaniement permanent de leurs liens, à des ruptures, à des rencontres et aussi à se situer par rapport à l'avenir et à leur famille. Donc c'est vraiment, je pense, effectivement, l'adolescence et le début de la vie adulte, une période d'ailleurs où d'ailleurs, il y a deux périodes dans la vie quand même où se fonde le lien, c'est la petite enfance, jusqu'à 5 ans, là on est dans le lien familial. Et au niveau de l'adolescence, on parle toujours de transformation corporelle, des pulsions hormonales, mais il y a aussi un remaniement relationnel.
L'autonomisation.
Et parmi les besoins primaires, le lien est quelque chose de fondamental, au point qu'on peut dire par exemple que la solitude peut être mortelle, je dirais.
On le voit bien quand les personnes sont totalement coupées du monde. Dans cette émission, on donne des conseils concrets. Par exemple, en cas d'arrêt cardiaque, il y a des conseils de secouristes. Quand il y a une crise d'épilepsie, on donne des conseils également sur les bons et les mauvais gestes. Et je vous poserai cette même question, docteur Antoine Le Sur. On est dans la rue, on voit quelqu'un qui fait une attaque de panique. C'est du concret, mais c'est simple et c'est à la portée de tous. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire?
Je vais reprendre un peu ce que je disais sur la rupture de lien. Dans l'attaque de panique, on peut dire que le vécu le plus douloureux, c'est un vécu de rupture de lien. Donc, si on est face à quelqu'un qui a une attaque de panique, il faut pouvoir être là. Et je dirais qu'être là en soi, je dirais, ne suffit pas toujours à calmer l'attaque de panique, mais est une condition, on pourrait dire, nécessaire.
Ça veut dire parler doucement, par exemple?
Ça veut dire parler doucement.
Mettre une main sur l'épaule,
oui,
ou pas toucher.
C'est-à-dire materner, on pourrait presque dire. Il y a une notion de maternage dans la présence à l'attaque de panique. Mais c'est vrai que parfois, ça ne suffit pas. Alors, il y a deux choses à savoir. C'est que l'attaque de panique, dans son acmé, dans son intensité maximale, en général, ne dure pas trop longtemps. Mmh. Donc, il faut être un peu patient, au fond, et attendre que spontanément, l'attaque de panique
redescende
et que la présence peut aider la rapidité de cet apaisement.
Alors l'anxiété, on continue d'essayer de comprendre. Un premier témoignage, on part maintenant pour le Cameroun.
RFI à Yaoundé, 105.5 FM.
Et on vous retrouve donc à Yaoundé. Magali, bonjour.
Bonjour.
Alors vous avez 36 ans, deux enfants. Et la première fois que l'on vous a parlé d'anxiété, hein, dans votre cas, c'était il y a 3 ans. Expliquez-nous, s'il vous plaît, Magali, dans quelles circonstances ?
Alors, il faut déjà dire que j'ai vécu dans un environnement familial très tendu. Il y a donc environ 3-4 ans, je suis avec une amie. Je suis en train de discuter là, je venais d'avoir mon deuxième bébé par césarienne. Et puis, subitement, j'ai une peur qui m'envahit. J'ai l'impression qu'un truc va arriver. J'ai l'impression que je vais faire un AVC. J'ai l'impression que je manque d'air. Je n'arrive pas à expliquer en fait ce qui se passe. Je me lève, je dis à mon ami, là, je ne vais pas bien. Il faut que j'aille à l'hôpital. Allô ?
Vous êtes à l'hôpital à ce moment-là et qu'est-ce qui se passe ? Vous passez des examens ? Vous allez voir un médecin ?
Je vais voir un médecin qui me dit, par contre, soupçonne hypertension, diabète. Il me dit, non, madame, vous ne souffrez de rien. Vous faites un stress chronique. Alors, il me demande d'expliquer mon environnement de travail, de famille et tout et tout. Je lui explique un peu. Et puis, il me prescrit Melex, qui allait m'aider à dormir, qui était supposé m'aider à dormir, avec Calm Z. Prenez comme ça de temps en temps. Bon, je ne peux pas vous donner exactement quelle était l'importance. Je n'ai pas vraiment eu les explications. J'ai l'impression que ça m'aide un bon bout, un an par là. Et à un moment, il me demande de diminuer les doses pour arrêter la dépendance. Donc, j'ai déjà un comprimé chaque soir. Après, moi, j'ai diminué à un demi. Après, je change d'environnement. Ça veut dire que je quitte d'une ville à une autre.
Oui.
Les choses, j'ai eu l'impression d'aller mieux, en fait.
Non seulement vous quittez une ville, mais il y a aussi des changements dans votre vie personnelle.
Exactement. Je passe par déjà un foyer qui était tendu. Je passe par un divorce. Je quitte d'une ville à une autre. Les responsabilités augmentent. C'est un peu plus de pression, un peu plus d'enjeu. Je vis tellement d'événements au même moment. Et les crises recommencent. Alors, je rappelle mon médecin de cette ville-là, qui me demande de prendre du Prozac. Il me dit, il faut dormir, il faut vous calmer, et tout, et tout. Je prends du Prozac, mais seulement le Prozac me fatigue tellement. Et avec les responsabilités, j'arrive plus à rien faire.
Un antidépresseur, voilà.
Voilà. Et il faut dire que quand j'ai commencé à vivre ça, il y a 3-4 ans, je me suis complètement retirée de la vie sociale. J'avais peur d'être devant les gens parce que j'avais peur qu'un truc m'arrive et que je ne puisse pas réagir. Être en réunion, j'ai peur peut-être de tomber. Et comme souvent, le stress chez moi, ça conduit des envies d'aller aux toilettes. J'ai peur déjà de manger quand j'ai peut-être réunion, quand je vais voyager. Je me retire totalement. Quand je vais même sortir avec des amis, j'arrête déjà de sortir, j'arrête de toute vie sociale en fait.
Magali, est-ce que vous aviez quand même des personnes à qui vous confiez, des personnes à qui parler ?
J'avais dû parler à mes parents, mais comme en Afrique, on ne comprend pas. Bon, moi je vais dire en Afrique parce que personne autour de moi ne comprenait ce qui m'arrivait. On me disait, mais c'est quoi ça ? Est-ce que c'est normal et tout et tout ? Je leur ai dit, mais je suis allée sur YouTube, je suis allée sur le net, j'ai fait des recherches. C'est des trucs qu'on ne connaît pas, mais c'est des maladies. Enfin, j'ai essayé un peu d'expliquer. Et je leur ai dit, le médecin effectivement a dit ça. Et je ressens exactement ce que le médecin a dit.
Est-ce que le médecin vous avait conseillé d'entamer une psychothérapie, de faire un travail, comme on dit, d'échanger sur ce plan, ou ce n'est pas vraiment quelque chose qu'il vous a proposé ?
Il ne m'a pas vraiment proposé ça, parce que bon, je crois que ce n'est pas trop dans notre culture. Je n'ai pas de rencontrer un psychologue.
Ce n'est pas facile d'en trouver un non plus.
C'est déjà pas facile d'en trouver. Et certainement, les prix seront très élevés.
Bien évidemment.
Alors, quand j'arrive à Yaoundé, on me conseille de voir un neurologue. Parce que même conduit, j'arrivais plus. Dès que j'avais l'impression que ça montait là, je devais m'arrêter. J'avais peur de faire un truc qui n'était pas, normal, quoi, devant les gens et qu'on se mette à rire, en fait. Donc, je consulte dans le neurologue qui me prescrit un produit Xanax. Il me dit, dès que vous sentez la crise monter, Prenez juste un comprimé. Ne prenez pas en dehors des crises. Prenez juste un comprimé. Et puis, ça va vous soulager. Et puis, ça va passer et tout et tout. Et au même moment, un ami me conseille de rencontrer une nutritionniste. Que ça peut être, tu as des carences et tout et tout. Tu rencontres une nutritionniste. Donc, ça, la consultation chez le neurologue et avec le nutritionniste, ça a coïncidé.
Oui.
Donc, quand je consulte, le médecin me prescrit Xanax. La dame commence à me faire des repas livrés. Avec, c'est pas, je crois que c'est complément alimentaire, c'est parce qu'elle met dedans les graines de chia, les pois chiches. Quand je fais mes recherches dans les livres de nutrition, on dit que ça régénère les cellules nerveuses et tout. Je me dis, bon, peut-être c'est ça. Donc, j'ai jamais pris le comprimé que le médecin m'avait prescrit. C'est vrai qu'il m'avait demandé de pouvoir identifier à quel moment, d'identifier mon problème.
D'essayer de comprendre ce qui faisait monter la crise et d'essayer d'analyser votre émotion quand ça arrive, c'est ça.
Exactement.
Oui,
il m'a dit déjà, retenez, vous n'êtes pas malade, dites-vous que vous n'êtes pas malade, vous n'avez pas de problème, vous n'avez pas. Donc il faut que je fasse un travail sur moi.
Ce travail sur vous, vous l'avez peut-être même d'une certaine manière entamé avec la nutritionniste en lui expliquant quels étaient vos problèmes. Donc, si j'imagine, cette question que vous posez au docteur Antoine Lesueur, qui a bien suivi votre échange, et je pense qu'il y aura déjà pas mal de choses à dire, ce qu'on entend vraiment avec Magali, c'est bien ce sentiment au départ d'être dépassé par ses émotions.
Alors, dépassé par ses émotions, dans un contexte quand même aussi de changement de lien, hein, puisqu'il y a à la fois la naissance d'un deuxième enfant, un divorce, des tensions familiales, comme elle a dit, hein, et peut-être aussi, ce que j'ai entendu, c'est le médecin qui lui dit « vous ne souffrez de rien ». Et ça, c'est beaucoup de patients me relatent ça, c'est-à-dire que les médecins disent « vous n'avez rien ». Vous n'êtes pas malade, vous ne souffrez de rien.
Mais en même temps, alors, il dit vous n'avez rien, mais vous avez du stress. Donc derrière,
oui,
il dit qu'il a quand même quelque chose.
Mais vous ne souffrez de rien, la patiente.
C'est très dur
Magali.
D'entendre ça quand on souffre.
Et je pense qu'effectivement, ce que beaucoup de praticiens, quand même, n'ont pas à l'esprit, c'est que cette souffrance psychique est peut-être plus douloureuse qu'une douleur physique. Parce que contrairement à la douleur physique dont on peut se dégager en général par quelques techniques, la douleur psychique envahit tout l'espace psychique et a un côté insupportable. C'est le côté très insupportable. Et ce que j'entends, c'est que le neurologue, lui, a essayé de prendre, d'analyser un peu, de lui donner des repères. Parce que quand on dit c'est le stress, on ne donne pas de repères.
Et en plus, de l'aider à supporter les crises quand elles surviennent. Parce que quand il y a ce comprimé de secours qu'il lui donne, c'est une vraie béquille.
Ouais, c'est une béquille, c'est une aide. Moi, je préfère dire c'est une aide qu'une béquille. C'est plus... Parce qu'une béquille, on a toujours le sentiment de rester... pas sur ses deux jambes.
Ça se discute.
Moi, je dirais que c'est... bref, mais je dirais que c'est une aide positive. Et je crois que... je ne sais pas ce qu'en pense cette personne, Magali, mais je pense que déjà d'avoir été prise en compte est une aide en soi. Hein. C'est ce que je disais sur la présence de l'autre. C'est-à-dire que je pense que dans le traitement ou la prise en charge des attaques de panique, trouver une présence ou des présences est une aide quand même fondamentale.
Magali, est-ce que vous avez eu ce sentiment parce que vous avez changé beaucoup de choses dans votre vie, vous avez déménagé, vous avez changé, bouleversé votre vie familiale et puis finalement vous êtes tombée peut-être sur le bon médecin qui vous a écouté?
Oui, exactement.
Et quand ça vous êtes sortie de sa consultation, vous vous sentiez comment?
Je me sentais apaisée et je vous assure, je n'ai jamais pris son comprimé. Je n'ai jamais pris le Xanax, mais seulement je l'ai mis dans chacun de mes sacs. Donc le fait déjà de savoir, je ne sais pas, moi c'est ça que je voulais demander aux spécialistes.
Vous vous sentez moins vulnérable?
Je me sens moins vulnérable, je me dis j'ai ma protection avec moi. Au cas où ça arrive, même en cours de réunion, je prends, je bois, j'ai toujours une bouteille d'eau, petite bouteille d'eau avec mon comprimé dans quelque part dans un petit sac pour le prendre au cas où. Du coup, je n'ai jamais vraiment eu à prendre ça.
En tout cas, ce qu'on entend avec vous, Magali, c'est cette importance... vraiment essentiel d'être écouté et que la parole soit prise en compte par le médecin. On vous remercie. Excellente journée à Yaoundé. D'autres témoignages à venir dans Priorité Santé. On va vous retrouver dans quelques instants, docteur Antoine Lesueur, juste après ce titre d'Aurel San, Jour meilleur.
Laisse-moi dire deux, trois conneries avant que t'en fasses une. Le problème de la vie, c'est qu'il y en a qu'une. On soignera jamais la dépression comme on soigne un rhume. Mais dis-toi que tu pourras compter sur moi le temps que ça dure.
Allergique à la vie, les matins sont obscurs, comme tout un arrière-coup déjà vu. Les nuits sont noires, tout le monde t'a abandonné, même la lune. Mais la fin du désert se cache peut-être derrière chaque dune. Tout va s'arranger, c'est faux, je sais que tu sais. Des fois je saurais plus trop quoi dire, mais je pourrais toujours écouter. Tout va pas changer, enfin sauf si tu le fais. Quand t'as le désert à traverser, y'a rien à faire sauf d'avancer. Rien à faire sauf d'avancer. On en rira quand on le verra sous un jour meilleur, jour meilleur, jour meilleur. On en rira quand on le verra sous un jour meilleur, jour meilleur, jour meilleur, jour meilleur.
Comme dans toutes les chansons de Faria, tous les meufs sont partis. Comme dans tous les morceaux de rap où tous tes potes t'ont trahi. Des fois t'as besoin de soutien, des fois t'as besoin d'un ami. Des fois t'as besoin d'avoir la haine, des fois t'as besoin d'un ennemi. En vrai, tu peux pas tout contrôler, faut que tu l'acceptes. Être heureux c'est comme le reste, faut d'abord apprendre à l'être. Je sais, tu vas te coucher en disant demain je le fais. Tu te réveilles en disant demain je le fais, mon ami.
Laisse-moi dire deux trois conneries avant que t'en fasses une. Le problème de la vie c'est qu'il y en a qu'une. On soignera jamais la dépression comme on soigne un rhume. Mais dis-toi que tu pourras compter sur moi le temps que ça dure. Allergique à la vie, les matins sont obscurs, comme tout un arrière-coup déjà vu. Les nuits sont noires, tout le monde t'a abandonné, même la lune. Mais la fin du désert se cache peut-être derrière chaque dune.
Priorité santé sur RFI, nous continuons de parler de la détresse psychique en compagnie de notre invité, le docteur Antoine Le Sueur, sujet au centre de son livre « La détresse psychique » chez Odile Jacob. Docteur Le Sueur, psychiatre en première partie d'émission, on a entendu Magali, hein, c'était il y a quelques instants, expliquer dans un premier temps comment un médecin lui avait prescrit toute une liste de médicaments psychotropes. J'aimerais bien qu'on revienne là-dessus. Est-ce qu'il vous arrive d'opter pour un traitement médicamenteux, vous en consultation, sans accompagnement psychothérapie? Je ne veux pas dire que ça n'arrive jamais chez un psychiatre. On rentre, on repart avec une ordonnance, ce n'est pas vraiment le genre d'approche de votre spécialité. Mais est-ce que ça passe toujours par un travail, un retour par la parole?
Je vais reprendre un peu ce que je disais, c'est-à-dire qu'au fond, comme c'est une expérience un peu de dépersonnalisation, on perd un peu ses repères, je crois qu'il y a un travail, quoi qu'il en soit, de redonner des repères. Alors, il peut être, c'est pas nécessairement une psychothérapie, mais c'est à la fois une écoute et une explication qui permet à la personne, peut-être que c'est ce qu'a vécu Magali, hein, de se repérer au moins, c'est
de retrouver des repères.
Et effectivement, le premier travail, c'est un travail permettre au patient de se repérer dans ce qu'il vit. Alors ensuite, le patient peut retrouver son autonomie et, moi j'ai envie de dire, guéri. Hein. Et puis il y a d'autres patients, ils vont avoir besoin d'un soutien médicamenteux en parallèle. Et puis il y a d'autres patients qui auront besoin aussi d'une psychothérapie ou d'une psychothérapie avec ou sans médicaments. Je crois qu'il y a plusieurs cas de figure, mais le point de départ, c'est redonner des repères aux patients.
On va tout de suite donner la parole à une auditrice.
RFI à Brazzaville, 93.2 FM.
Et en ligne du Congo, Belvani, bonjour.
Bonjour.
Alors, nous avons enregistré cet entretien. Belvani, vous êtes âgée de 33 ans et vous gardez en mémoire ce que vous appelez votre première crise de panique. Cela remonte à quand ?
À mars 2021. C'était le jour de l'enterrement de mon petit cousin. Et le même jour, c'était aussi l'anniversaire du décès de ma meilleure amie. Déjà que j'ai peur de la mort. Je crois bien que ces deux événements ont fait que j'ai une crise parce qu'après, j'ai commencé à avoir des douleurs dans la poitrine. Je tremblais. Ensuite, j'ai eu l'impression de devenir folle. Du coup, j'ai appelé toute ma famille pour expliquer ce qui se passait.
Vous dites « j'ai appelé ma famille » parce que vous étiez seule quand vous avez eu cette crise ?
Oui, j'étais toute seule à la maison.
Et comment réagit votre entourage ? Qu'est-ce qu'on vous a dit à ce moment-là ?
Ils sont venus aussi vite qu'ils pouvaient. Ils m'ont dit que c'est rien de grave, tu vas bien, je te vois là, tu vas bien. Mais en moi, ça n'allait pas. Du coup, je suis allée à l'hôpital, j'ai fait une piste d'examen. Il n'y avait toujours rien. Et ils ont dit qu'ils ont raison et moi, j'ai tort, je n'ai rien. C'est juste la peur.
On vous a dit que vous aviez tort parce que vous étiez persuadée d'avoir quoi ?
J'étais persuadée d'avoir quelque chose dans ma tête. Je ne sais pas, quelque chose, un nerf peut-être qui s'est déplacé ou qui a bougé, qui va faire que je devienne folle dans une minute à l'autre. Donc.
Quelque chose de physique.
Oui.
Et qu'est-ce qu'on vous a prescrit à ce moment-là?
Un anxiolytique que je devrais boire chaque soir avant le coucher.
Et comment est-ce que vous avez réagi à ce traitement?
Bien au début, mais après je commençais à avoir d'autres effets secondaires qui me faisaient encore plus peur que ma crise de panique. Le bras gauche qui se fatiguait. Quand je parle, je peux parler pendant une minute d'affilée, je parle, j'ai un étouffement dans la poitrine. Ensuite, j'avais aussi peur de la dépendance, donc j'ai arrêté, j'ai dit j'accepte ce que j'ai et je gère ça comme ça.
Vous avez arrêté toute seule sans retourner voir un médecin, c'est ça?
Toute seule.
Alors depuis cette crise, hein, ça remonte presque à un an en arrière, est-ce qu'il y a eu d'autres manifestations de ce type?
Non, il n'y a pas eu d'autres manifestations de ce type parce que j'ai appris à accepter ça. Donc quand j'avais la douleur de la poitrine, je sais que ça commence comme ça et je me dis que c'est le stress, ça va passer et j'arrive à gérer.
Vous associez ces problèmes, on l'a entendu tout à l'heure, avec les deuils, avec la peur de la mort. Est-ce que vous rattachez ces problèmes particuliers, ce malaise avec d'autres événements, avec d'autres choses qui se sont passées dans votre vie?
Oui, avec la santé de ma fille, je crois que c'est la chose qui m'a emmenée un peu vers le stress, qui est la cause des crises de panique aussi, parce que mon enfant est drépanocytaire et depuis, j'ai vraiment du mal à digérer ça. Ça devient le sujet de mes inquiétudes. Je ne dors pas, je fais des recherches tous les jours, je cherche des remèdes miracles et puis je suis en stress tout le temps.
Alors vous savez bien, vous avez dit vous-même des remèdes miracles. Ces remèdes miracles, ils n'existent pas contre la drépanocytose. Par contre, votre petite fille, elle est bien prise en charge? Elle est suivie par un service dédié?
Oui, elle est prise en charge dans le centre de drépanocytose ici, là, à Brazzaville. Ça va, comme la prise en charge a été vite intervenue. Mmh. Donc ça va de mieux en mieux.
Donc il faut peut-être travailler aussi sur la confiance qui s'établit entre l'équipe médicale, la petite et vous-même.
C'est exactement ça. Et moi-même, je n'ai pas de soutien. Souvent, on traite la maladie, on traite le patient, mais la mère, les parents du patient, on ne les traite pas alors que nous souffrons aussi.
La souffrance, elle est bien là. Est-ce que vous avez trouvé le moyen d'en parler à l'extérieur, Belvani?
Avec ma famille, on en parle, mais pas comme je voudrais qu'on en parle. C'est un peu un sujet tabou parce qu'on ne veut pas que notre enfant soit jugé par nos proches. Donc, on n'en parle pratiquement pas.
Et en termes de suivi psychologique, est-ce que quelqu'un vous aide? Est-ce que quelqu'un vous accompagne?
Non. Personne ne m'accompagne. J'ai juste peur d'aller voir un psy et que je tombe sur un mauvais qui aggrave ma situation. Du coup, je fais avec le jour le jour.
Et vous ne pensez pas qu'auprès justement du service de prise en charge de la drépanocytose, ils peuvent vous indiquer un médecin qui est spécialisé dans l'accompagnement des familles, quelqu'un qui puisse aider ou au sein d'une association?
J'ai essayé de demander à la pédiatre de ma fille. Non, il n'y a pas un service. Par contre, on a une association de lutte contre la drépanocytose que j'ai tout de suite intégrée. Donc j'essaie de me soulager un peu en rencontrant des gens qui sont dans la même situation que moi. De cette façon-là.
Il y a des groupes de parole?
Pas encore. On est en train de voir comment mettre en place ce service-là, cette structure.
Alors, du côté justement de ces crises d'angoisse que vous avez connues il y a un an maintenant, Belvani, est-ce que vous avez une ou plusieurs questions à poser à notre invité qui vous écoute?
J'aimerais savoir si, parce que je faisais le sport aussi, c'est vrai qu'il y a eu des signes avant, mais je faisais le sport. J'aimerais savoir si le fait que je dépensais un peu plus d'énergie, je transpirais, que mon calcium et mon magnésium diminuaient, ça pouvait être aussi une autre cause de crise de panique.
Alors cette question, docteur Le Sur, posée par Belvani, y a-t-il un rapport possible entre des efforts intensifs et une crise de panique? Vous ne savez pas.
Je sais pas, en fait. Il peut y avoir, effectivement, qu'on se retrouve avec une hyperventilation. On peut se retrouver, ça peut favoriser les crises de panique, les attaques de panique. Mais ce que je dirais en écoutant cette auditrice, c'est que quand même, il y a plein de facteurs
Mais c'est ça qui est aussi très intéressant, c'est qu'elle prend le temps de nous décrire toutes ses épreuves, hein, quand même, c'est pas facile. Le diagnostic pour sa petite fille, les deuils dans l'entourage, mais elle a toujours besoin d'une explication terre à terre.
Voilà, rationnelle. Qui la rationnelle, voilà, qui la rassure. Voilà. Pas terre à terre, qui la rassure. Hein, elle a besoin de. C'est ce que je dis dans donner des repères. Alors, je pense que ce qui est important, c'est qu'elle dit quand même que d'être dans des groupes, de pouvoir parler avec des groupes, ça la rassure. Donc, on voit bien, on sent bien que dans cette dimension, et c'est ça, dans l'anxiété, qu'est-ce que c'est ? L'anxiété ou la détresse angoissée, c'est au fond le sentiment d'un malaise diffus, d'une menace. Et qu'est-ce que c'est qu'une menace ? C'est d'avoir le sentiment de ne pas être protégé. En fait, c'est des personnes qui ont besoin de se sentir protégées. Or, qu'est-ce qui protège le mieux ? L'être humain, c'est un autre être humain.
Le groupe.
C'est le groupe.
Le groupe quand il est, positif.
Donc, je pense que c'est toujours quand effectivement, il n'y a pas un système de soins qui permet l'accès à des psychothérapies, etc. Je pense que la régulation par les groupes est très importante. Et je pense qu'un travail, effectivement, que vous faites de faire connaître tout cela peut permettre à ces patients de ne pas être ostracisés et de pouvoir, dans des groupes, retrouver une certaine confiance en soi.
On va prendre un autre auditeur en ligne, si vous le voulez bien maintenant, du Sénégal. C'est Malik avec nous. Malik, bonjour.
Bonjour Caroline.
Malik, vous avez 26 ans. En préparant cette émission, vous avez dit souffrir de troubles anxieux. Qui a posé ce diagnostic, Malik ?
Oui, avant tout d'abord, j'ai eu ces pensées-là, c'était en août 2021, c'était en août dernier que j'ai commencé à ressentir ça. Donc c'était dans mon lieu de travail, dans un moment donné, j'ai déjà pris le petit déjeuner et j'ai commencé à ressentir des choses très bizarres, c'est-à-dire que j'arrivais plus, je ressentais plus mon respiration. Et j'essayais d'approcher les climatiseurs un peu, de changer l'air, d'ouvrir les portes. Et jusqu'à un moment donné, c'est devenu sérieux. C'est-à-dire que j'arrivais plus à ressentir mon respiration. Et ça m'a donné une peur énorme. Mon cœur se battait vite. Et j'ai commencé à avoir peur et mon cœur se battait plus vite. Donc je suis sorti de mon lieu de travail et direction à l'hôpital. Donc le médecin m'a prescrit des analyses à faire. J'ai fait des analyses, de l'ECG, j'ai même fait le thorax aussi.
Électrocardiogramme, oui.
Oui, donc tout ça, ça n'a rien révélé. Donc il m'a donné aussi des vitamines à prendre en attendant que les résultats sortent. Mais quand les résultats sont sortis, ils n'ont rien révélé.
Et il a fallu voir un autre neurologue au mois de novembre, c'est ce que vous nous avez expliqué en préparant l'émission, Malik. Et là, ça a changé, il y a eu une vraie écoute.
Oui, bien sûr. Avant de voir le neurologue, j'ai parti voir un autre neurologue qui m'avait signalé que c'était de l'espasmophilie. Donc, il m'a rassuré, il m'a dit que c'était rien, je dois éviter le stress et tout. Donc, j'ai essayé d'éviter le stress, j'ai fait du sport, mais les pensées n'étaient pas s'arrêter. Donc, c'est ça qui m'a poussé d'aller faire des recherches et d'aller voir un neurologue.
Quand vous dites pensées, ça veut dire que vous aviez peur d'avoir des crises ou que vous aviez des idées noires ?
Oui, j'avais des idées noires et des peurs. J'avais
les deux
des
ensemble.
Idées noires comme si j'avais de maladies qu'on ne peut pas soigner. J'avais des pensées tellement bizarres que je n'avais pas compris en fait. Donc ça m'a poussé d'aller voir un neurologue. Donc le neurologue, elle m'a rassurée. Elle m'a dit qu'elle va m'aider pour s'en sortir. Et aujourd'hui, je ne ressens plus ces pensées. Donc, elle m'a aidé, elle m'a donné des médicaments, un traitement à suivre. D'ailleurs, jusqu'à présent, je suis en train de suivre le traitement. Donc, depuis que j'ai démarré ce traitement, je vais mieux. Et donc, je ne ressens pas beaucoup ces pensées.
Ces pensées négatives. Vous aviez une question très concrète par rapport à ce témoignage très intéressant que vous venez de faire, Malik, au sujet de votre traitement des anxiolytiques. Cette question précise à notre invité, le docteur Antoine Lesur, c'est quoi précisément ?
Bon, ce que je voulais poser, c'est sur la dépendance des médicaments. Parce que moi, quand on m'avait prescrit les médicaments, j'avais peur de les prendre. Donc, parce que souvent sur les notices, on nous dit ça en fait. On nous dit souvent que il y avait ça peut être fortement de dépendance, c'est-à-dire que C'est-à-dire que vous pouvez être dépendant de ces médicaments. Donc,
est-ce que ça vous a quand même soulagé dans un premier temps, Malik, ou pas?
Oui, exactement. Ça m'a vraiment soulagé.
Donc après, la question, c'est un petit peu apprendre à arrêter.
Oui.
Mais en même temps, vous êtes suivi par votre médecin. Donc, s'il y a besoin d'avoir des conseils en termes d'arrêt, vous pourrez lui poser aussi la question.
Oui, je l'avais posé la question. Elle m'a dit que c'est juste un traitement. Si vous n'avez plus besoin de ces médicaments, vous l'arrêtez automatiquement. Mais jusqu'à présent, ça ne me rassure pas 100%.
Pas complètement. Et c'est vrai que tout à l'heure, il y avait aussi une autre auditrice qui posait cette même question, docteur Antoine Le Sur. Dans l'immédiat, prendre un médicament pour se soulager, mais c'est vrai que beaucoup de personnes se disent après, est-ce que je vais réussir à arrêter?
Alors ça, c'est une question importante, tout à fait. Il y a deux types de médicaments qui sont couramment utilisés dans les attaques de panique, dans ce type de trouble. C'est des anxiolytiques, les benzodiazépines. Ce sont des produits qui induisent une certaine dépendance. Mais comme toujours, la dépendance est fonction d'abord de la personnalité du sujet qui reçoit le traitement. Et disons que quand on prescrit un traitement médicamenteux, il y a toujours une balance entre l'effet attendu et effectivement des effets un peu indésirables tels que la dépendance. Donc ce ne sont des médicaments qui doivent être prescrits par des médecins en fonction d'un résultat attendu, d'une situation clinique attendue et qu'il faut arrêter progressivement. Mais ce qui est très dangereux, en fait, c'est si on est obligé d'augmenter la dose. C'est-à-dire que si le patient sent que pour avoir le même résultat, il doit augmenter la dose, alors là, il y a un problème.
Il y a une accoutumance, c'est une dépendance.
Voilà.
Mais en tout cas, dans le cas de Malik, ce qui est très important, c'est de dire qu'il est suivi.
Voilà. Et c'est ça. Mais je crois que par rapport à cette dépendance, il ne faut pas avoir peur tant que le produit soulage en gardant la même dose. Voilà. C'est un petit truc.
C'est important de l'entendre. Voilà. Merci beaucoup pour votre témoignage, Malik. On part tout de suite pour la Guinée.
RFI à Conakry, 89.9 FM.
Docteur Mariama Barry, bonjour.
Bonjour, madame.
Bonjour, vous êtes psychiatre au CHU, donc à Conakry, également chargée de l'unité santé mentale au niveau du ministère guinéen de la Santé. Docteur, tout à l'heure, notre auditeur de Dakar a fait part de ses difficultés avant d'avoir un bon diagnostic. Est-ce que c'est un cas de figure que vous rencontrez souvent en ce qui concerne l'anxiété?
Oui, ça arrive souvent que les malades aient un parcours très difficile avant d'arriver dans nos structures.
Y compris d'ailleurs en passant par d'autres canaux que l'hôpital, que le centre de santé. Des fois, ils vont voir d'autres praticiens, d'autres acteurs du soin.
Tout à fait. Surtout les praticiens, avec les problèmes culturels qui se posent à nos malades, ils se réfèrent d'abord aux praticiens. Et ensuite, ils cherchent maintenant à voir dans les hôpitaux, quels sont les services qui sont spécialisés dans leur domaine.
Il faut dire, docteur Barry, qu'une consultation chez un psychiatre, évidemment, c'est assez compliqué compte tenu du faible nombre de médecins spécialistes dans votre contexte de la Guinée.
Oui, non seulement il y a le nombre réduit de spécialistes, mais il y a aussi la stigmatisation que supportent nos malades.
C'est-à-dire, quand on va chez le psy, en gros, on est étiqueté fou et ça fait peur.
Et oui, ça fait peur. Et déjà, on est catalogué comme malade mental et que c'est quelque chose qui ne s'enlève pas.
Donc, bien faire passer le message.
Ce sérieux problème.
Les psychiatres sont des médecins. Docteur Mariama Barry, est-ce que certains patients, précisément, font le lien d'emblée, quand ils arrivent en consultation chez vous, entre certains traumatismes, on va dire des épreuves de la vie, et leur état de détresse psychique?
Non, il faut que nous attirions leur attention là-dessus. S'ils ont eu des problèmes de traumatisme psychologique, qu'on leur explique que c'est à partir de ce problème-là qu'ils ressentent ces symptômes.
Et après, est-ce que les langues se délient quand on tire sur le fil? Est-ce que ça vient? Ou est-ce que c'est des choses qui sont vraiment difficiles à sortir?
Non, au début, c'est difficile à sortir. Mais quand c'est un peu avancé, là, ils se confient. Parce que la confiance renaît.
Est-ce que finalement, il n'y a pas une forme de déception à ce qui n'est pas une explication physique à ces troubles, comme on a pu l'entendre tout à l'heure dans certains témoignages?
En fait, je ne dirais pas déception, mais des difficultés de compréhension.
D'acceptation.
Surtout.
Docteur Barry, est-ce que, tout à l'heure on parlait, pas évident de trouver un psychiatre parce qu'il y a des blocages en termes de stigmatisation, parce qu'il y a un problème d'accès aux soins, il y a aussi, on le sait, la localisation, quelques médecins Conakry, mais rien en Brousse. Est-ce qu'il y a aussi les difficultés de la prise en charge économique en termes de budget? Ça coûte cher de se faire soigner et la priorité, eh bien, ce n'est pas la santé mentale.
Oui, bon, si nous prenons le coût des neuroleptiques dans tous les pays du monde, nous savons que c'est un coût très élevé et qui n'est pas à la portée des familles dans nos pays. Parce que nos familles sont le plus souvent des familles pauvres. Et accompagner des malades mentaux pendant longtemps aussi appauvrit. Et c'est pourquoi, de temps en temps, nous rencontrons beaucoup de malades qui sont abandonnés. Ce n'est pas parce que les familles ne veulent pas intervenir, mais c'est parce qu'ils n'ont pas les moyens.
Et ça plaide une nouvelle fois sur des efforts conséquents en termes de couverture santé. On vous remercie infiniment, hein, docteur Mariama Barry, pour ces explications. Très, très bonne journée à Conakry. On arrive à la fin de notre échange, docteur Antoine Lesure. Certaines phobies, certains troubles anxieux sont provoqués par des situations bien précises. Ça peut devenir totalement envahissant. Est-ce que dans ce cas-là, une hospitalisation est envisagée?
C'est rare. Soyons francs, c'est rare. Tant qu'il n'y a pas de complications par une dépression, il est rarement nécessaire d'hospitaliser des patients qui souffrent d'un trouble anxieux, même de détresse, type attaque de panique ou agoraphobie.
Alors, il y a une question très concrète, ce sera ma dernière question. Est-ce que la prise de certaines substances, ça peut favoriser les troubles anxieux? Parce que là aussi, on peut faire un petit travail de prévention. Je pense par exemple à l'alcool, certaines drogues, la prise de certains médicaments. Est-ce que ça peut favoriser des accès de panique?
Alors, d'une part, dans les sevrages, il peut y avoir des accès de panique assez fréquents. Et donc, la prise, effectivement, de certains toxiques peuvent favoriser les attaques de panique, soit par sevrage, soit lors des ivresses, en fait. Lors d'ivresse cannabique, par exemple, il peut y avoir des attaques de panique assez sévères.
Donc, ça plaide aussi pour une très, très grande prudence à ce sujet. Merci infiniment à vous, docteur Antoine Lesure, d'avoir répondu à notre invitation. Et donc, ce livre publié chez Odile Jacob, « La détresse psychique, une nouvelle approche du soin ».
Priorité santé sur RFI.
Et un colloque pour marquer un centenaire, celui de l'Académie des sciences d'outre-mer. Une série de conférences où il sera question de maladies infectieuses, d'épidémies, d'émergence en Afrique, comme de la transition nutritionnelle. Colloque organisé demain avec comme intervenant spécialiste de la santé et de l'économie tropicale, dont vous pourrez en parler avec nous, professeur Jean-Philippe Chipeau. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur de recherche émérite à l'IRD. Professeur Chipeau, vous faites partie des conférenciers. Peut-être commencer par une présentation de cette vieille dame, l'Académie des sciences d'outre-mer, cette institution qui plaide en faveur notamment du développement de la recherche, de la science dans les pays du Sud.
Oui, tout à fait, avec un abord extrêmement large, puisque toutes les disciplines sont représentées, depuis l'économie jusqu'à la géographie, en passant par la santé, la politique, la diplomatie, etc. Donc c'est une vision très très large de tout ce qui est étranger, en fait, pas seulement l'outre-mer, puisqu'on travaille aussi sur l'Europe et sur les pays du Nord comme les pays du Sud.
On va s'intéresser en particulier aux pays du Sud, avec évidemment cette actualité de l'émergence. Ça fait des années qu'on en parle dans Priorité Santé. Aujourd'hui, on le comprend bien, c'est un sujet au cœur des préoccupations de chacune et de chacun dans le monde. Ce contrôle des épidémies, il passe également par une amélioration des compétences, des moyens dans tous les pays du monde, y compris au Sud.
Oui, tout à fait. Et peut-être d'abord au Sud, puisque les moyens sont beaucoup plus problématiques au Sud, à la fois pour des raisons économiques, pour des raisons aussi de formation, pour des raisons de disponibilité de personnes, etc. Donc nous nous intéressons particulièrement au Sud, en raison de ces problématiques.
Avec la question de l'appropriation, non seulement des savoirs, mais aussi des pratiques, des technologies apportées de tous, et puis des apports qui sont propres à ces populations du Sud, parce qu'il y a tout un tas de connaissances et de savoir-faire particuliers.
Tout à fait. Ce sur quoi nous insistons beaucoup, c'est sur une appropriation par les acteurs du Sud. Évidemment, il va falloir tenir compte des aspects de formation, des aspects de technologie, des aspects économiques, mais surtout, il y a des initiatives qui peuvent être prises par les acteurs locaux et qui sont bien évidemment mieux adaptées et qui répondront mieux, pensons-nous du moins, qui répondront mieux aux problématiques qui se posent au Sud.
Ça veut dire qu'on ne se pose pas simplement dans une question financière et non plus technologique. Hein. Tout ce qui est numérique, ce n'est pas l'unique ressort. La dimension citoyenne, elle est essentielle.
Elle est fondamentale. Et d'ailleurs, ce point sera particulièrement développé par Ronnie Broman demain, qui est l'ancien président de Médecins Sans Frontières, et qui va montrer l'élargissement et la diversification du rôle des acteurs privés, publics, internationaux dans la santé. Qui maintenant échappe aux seuls professionnels de santé. Et il va se baser essentiellement sur son expérience de l'épidémie de sida qui a révolutionné cet aspect-là.
Avec justement les militants devenus acteurs de soins eux-mêmes et les patients devenus acteurs de soins. L'appropriation, on en parlait, ça passe aussi par un effort conséquent en matière de formation des soignants sur place, des soignants locaux.
Absolument, et cette formation, il y a quand même deux aspects, c'est-à-dire d'abord qu'elle doit s'inscrire dans le temps. Ce n'est pas seulement une formation ponctuelle, ce que nous faisons déjà depuis un certain temps, mais là, il faut vraiment l'inscrire dans le temps. Et la deuxième chose, c'est l'actualisation. Les technologies avancent avec une rapidité extraordinaire. On l'a bien vu avec la pandémie de Covid, avec de nouveaux vaccins, avec de nouveaux outils. Donc il faut absolument qu'on actualise cette formation.
En tenant compte des réalités géographiques, hein, tout ne se passe pas, professeur Chipot, dans les grands centres urbains.
Absolument. L'une des problématiques, c'est d'apporter ces outils au bout de la piste.
Et c'est particulièrement ce que vous traitez sur votre spécialité, c'est l'envenimation. On a régulièrement l'occasion d'en parler avec vous, les piqûres de serpents. Quand on a l'antivenin à 3000 km du lieu de la morsure, ça ne sert pas à grand-chose.
Exactement. Alors... Exactement. Même si aujourd'hui, on a des drones qui permettraient d'apporter ces antivenins, c'est l'expérience du Kenya actuellement. C'est très intéressant comme approche, mais ça ne suffit pas. Il faut mettre l'antivenin à la disposition des populations qui en ont le plus besoin.
Et il faut le signaler, cette actualité, elle vous a rattrapé, celle des épidémies et de l'émergence, parce que ce rendez-vous il avait du centenaire, il avait bien sûr été donné avant la crise sanitaire.
Bien entendu, oui, le centenaire, c'est prévu, nous le discutons depuis 2 ans, 3 ans même, donc on ne parlait pas encore de la pandémie.
Mais ces problématiques de l'émergence, elles étaient déjà au cœur de vos préoccupations. On vous remercie beaucoup, professeur Jean-Philippe Chipot, d'avoir répondu aux questions de Priorité Santé. Et Priorité Santé touche à sa fin. Merci à toute l'équipe qui chaque jour fabrique et réalise votre émission. Assez Toussamaké, Ophélie Lassène, Didier Bleu et Laurence No. Demain dans Priorité Santé, émission spéciale question de femmes, santé gynécologique. On parlera des fibromes utérins, diagnostic, prise en charge. Dans quel cas faut-il traiter ces myomes? On se dit à demain. D'ici là, portez-vous bien et lavez-vous bien les mains.
C'était Priorité Santé avec Sunwa Assurance, qui a le bon profil pour vous accompagner durant cette année d'excellence. Bonne année.